Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosette de Boudoir, comme d'habitude en compagnie de Camille. Bonsoir Camille.
Bonsoir Hélène.
Mais ce soir, nous avons une invitée, notre invitée.
Notre invitée, notre grande Djalila, pour présenter évidemment son nouvel album de rap. Bonsoir Djalila.
Bonsoir Camille, bonsoir Hélène. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation.
Alors, c'est vrai que cela faisait très longtemps que ce thème d'émission nous démangeait. Une spéciale Madame Rap. Mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Il est vrai qu'il est dans nos habitudes de démonter souvent les morceaux de rap que l'on trouve macho ou sexiste, etc. Le petit chéri d'Hélène, c'est évidemment Aurel San qui s'en prend régulièrement plein la figure. Mais c'est vrai qu'on ne vous proposait pas grand-chose en contrepartie. Donc aujourd'hui, on s'est retroussé les manches et on s'y est mise. Et donc, on est maintenant en mesure de vous proposer une émission de Cosette de Boudoir sur le rap féministe Madame Rap. Tout d'abord, petite précision, on a emprunté ce titre à une revue en ligne qui s'appelle Madame Rap et qui propose pas mal de morceaux de rap féministe et on l'en remercie.
Moi, je croyais que c'était toi qui avais trouvé ce titre et je trouvais ça super.
Ouais, mais non. Grosse surprise, puisqu'on retrouve notre copine Djaloul, qui était déjà venue pour l'émission sur le monde, sur l'érotisme dans le monde arabe. Et donc, pour fêter son retour dans Cosette, on vous propose une spéciale autour de l'album des Funky Sista Crew, premier album. Donc, on soutient à mort, car c'est du rap intelligent et féministe.
Merci du soutien, c'est premier rap, premier album qu'on a attendu longtemps, donc on est un peu contente que ça sorte enfin.
Bon après c'est du super, c'est pas que les paroles quoi, la musique est bien, enfin c'est vraiment super ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Donc ça va être une émission un petit peu particulière, moins de texte, plus de musique, et puis un peu sous une forme de discussion sur à la fois le groupe, les Funky Sista Crew, leurs histoires, leurs thèmes, mais aussi ça va s'interroger sur le monde du rap, la place des femmes, leur représentation, etc. Petite présentation des Funky Sista Crew, trois copines d'enfance.
Exactement.
Djaloul.
Oui, c'est moi.
Anne.
Oui.
Et Jo. Donc vous êtes respectivement prof, éduc et comédienne.
Tout à fait, comédienne, spécialiste théâtre d'impro.
Voilà, et surtout rappeuse.
Surtout.
On ne peut pas trop garder notre petite tradition parce que même si pour toutes, le rap c'est de la poésie, on ne va pas vous lire un morceau de rap, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en s'écoutant un des morceaux de votre album qui s'intitule « À l'abri ».
Je brise tout ce qu'on me donne. Plus je reçois et moins je donne. Plus riche que forêt d'automne. Mais de personne. Bonheur m'alourdit et m'ennuie. Ne suis pas fait pour ce pays. Avec les loups, suis à l'abri. Suis à l'abri. Suis à l'abri. Avec les loups,
tu croyais être à l'abri, telle la perdrix sur sa branche. Mais sens-tu une seconde à quoi ressemble la vie? Tu voulais le paradis, mais c'est plutôt raté. Fallait te lever plus tôt et aller parader. Ceci n'est pas une berceuse. Ici on crame, on coule, on crève, on creuse. On se craint, on se tape, on se teste, on craque. On parade comme au cirque, on se prend même pour des acrobètes. Plus près de leur portefeuille que de leur port de tête. Plus près de la crise de nerfs et l'emprise tempête guette. Et ça jacque de toutes parts, et ça espère ta chute. Et ça m'a tes envies, ce qu'on puisse au froid. Fallait pas ouvrir la bouche, fallait pas passer par là. Qu'on parcourait semé d'embûches, fallait presser fort. Tu croyais être à l'abri, mais ton cas est si commun. J'avertis, question de courtoisie, histoire de sortir du coma.
Avec les loups,
avec les loups.
Tu supportes un cathéter dans tes artères, la pression est constante dans tes affaires. T'as des phases sordides dans tes artères. Tu préfères éviter la question de ce que tu fous sur terre. C'est un poison de ouf qui coule dans tes bras et tes vers. Un délire psychoactif qui ne te laisse aucun repère. C'est un divorce sanglant entre clarté et mystère. Une cellule maladive dans un corps en jachère. Mon attribut n'est pas placé entre mes jambes maigres, mais entre mes deux mains, prolongement de mes viscères. Donc si tu joues des points pour essayer de nous faire taire, prends plutôt un mic et branche sur ta grise matière. Navré que les loups de la meute un jour se bouffent entre eux. C'est qu'en période famine très peu s'attaquent à l'oppresseur. Plus facile d'atteindre ceux qui démontrent de l'estime. La source des problèmes qui passent du testing au casting. C'est pas pour ceux qui se démènent à me semer que j'ai le seum. C'est pas pour me sortir de ce dédale que j'ouvre ma gueule. Les plus mal à ma scandale s'emballer des balles. Plus je suis convaincu que ma gale vaut bien mieux que ta dalle.
Avec les loups, suis à l'abri.
C'était À l'abri, un extrait de l'album des Funky Sister Crew. Votre album s'appelle 1.
Il s'appelle 1 parce que c'est un peu l'unique pour le moment. Et j'ai trouvé que c'était important que ce soit 1. On trouvait, toutes les trois, après de longues discussions de copines qui durent tard. Puisqu'en fait, le 1, c'est aussi en lien avec notre histoire, qui fait 1 dans notre histoire du rap et dans ce qu'on pense en fait faire. Il y a quand même pas mal d'unicité et dans ce qu'on propose dans cet album.
Alors, on va attaquer un petit peu par la genèse hein, des Funky Sister Crew. Raconte-nous un peu l'histoire, comment c'est né, pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du rap, en fait?
Alors, c'est tout d'abord une histoire d'amitié avant d'être une histoire de rap, puisque ça favorise quand même les choses et on a quand même plus envie d'écrire quand on est amis, du moins pour nous. Et les histoires, en fait, durent quand il y a quand même un sentiment d'amitié. On avait envie, en fait, de proposer quelque chose parce qu'on voyait très peu de nanas à l'époque fonctionner en bande, en groupe, et on laissait un peu ça aux garçons. Et on voyait en fait nos copines un peu être avec le groupe d'amis masculins, traîner avec les garçons, avec les copains du petit ami et tout ça. Nous, on avait envie en fait que ce soit eux qui traînent avec nous. Donc, on a eu envie en fait d'insuffler quelque chose de différent, quoi. Et voilà, notre politique, c'est complètement l'entrisme et de faire les choses le plus naturellement possible. Jo rappait depuis longtemps, en fait, avec un groupe qui était basé sur Pau. Et elle nous a un peu donné la force à Anne et à moi, en fait, de rapper, parce qu'on écoutait du rap, fan d'Oxmo, fan de Kazé, ça berçait le Walkman, voilà, les magazines au lycée, au collège, c'était un peu notre culture, quoi, ce à quoi on s'identifiait et à quel groupe, en fait, on voulait appartenir. Et puis, on a essayé une fois. Voilà, dans un appartement, derrière un frigo, avec un vieux micro. Et c'était du one shot, et on s'est dit, ah bah, c'est pas mal en fait, et il faut essayer, et puis on va écrire ensemble et faire quelques scènes ensemble.
Vous avez pris le texte de quelqu'un et vous êtes mis chacune à rapper à tour de rôle sur un texte?
Non, en fait, on s'est mise instinctivement à écrire. Parce qu'on écrivait plus ou moins chacune. Juste voilà, Jo écrivait déjà dans un groupe de rap avec des garçons. Et on s'est dit, bah, tiens, on peut rapper nos textes. Et voilà, ça a été un peu compliqué puisque l'écriture en fait en hip-hop est pas la même que l'écriture de poèmes ou autre, puisqu'il faut être dans un rythme, il faut voilà obéir un peu à un système du 16 mesures. Donc ça a été un peu compliqué au départ, puisque surtout pour moi qui faisait un peu voilà, c'était un peu le défaut de l'écriture fleuve, mais ça s'apprend et puis voilà, et en essayant en fait tout arrive. Et on se dit c'est possible, on y va.
Vous êtes né dans les années 80, hein, grandi dans les années 90, donc on est vraiment dans la même génération. On a tout été biberonné au rap, hein, plus ou moins. Alors, tu as cité Kazé, Oxmo, tout ça. Est-ce que dans ces années 90, vous aviez aussi des influences, des choses, enfin des rappeurs qui vous inspiraient?
Ça a été c'est un peu notre génération, c'est la génération Secret Connection. avec en fait ce sentiment voilà d'appartenir à un groupe et on avait un petit peu voilà c'était un peu les deux quoi parce que on était dans une colère mais pour nous en fait la colère elle est pas négative, la colère c'est vraiment un moteur pour avancer et surtout pour créer et on doit tous être en colère de toute façon, le monde nous met en colère et il fallait qu'on trouve un peu un exutoire et comment on peut partager ce qu'on ressentait, partager en fait les non-dits et partager aussi notre joie en fait. Le rap c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup d'influences musicales différentes et surtout le partage. Donc on avait vraiment envie d'appartenir un peu à cette culture-là.
Alors moi je propose qu'on s'écoute un morceau que j'aime beaucoup. Je crois que c'est le premier morceau que j'ai écouté de
c'est
vous.
C'est ça.
Ouais, et c'est presque devenu mon hymne. C'est aussi un morceau qui rend hommage hein, à ces années 80-90 hein, mm-hmm. puisqu'il s'appelle Panthers. Mm-hmm. Et c'est clairement un lien direct avec les dessins animés Cat Size.
Exactement.
Hein. On y va ? On s'écoute ça ?
Quand les sistas sont hal, t'inquiète, je prends le mic, je me file souvent la file. On dit tu vas avoir du mal, parce que t'es juste une fille. L'esprit fanti toujours là, la force, énergie, la fougue. Les sistas loin de s'endormir viennent réveiller les foules. Mon rap est persistant à l'heure où d'autres MC le disent inexistant. Il s'est levé tôt le matin et couché tard en rimant. À chacun de nos vers, en rêvé que nos vers fait se verser. Asservissant le verbe à la férocité d'un fan qui en émulsion. Émotion maîtrisée, on claque le bec à se conjacter. Écoute en ragodant, en temps pour oublier qu'ils étaient. Du rap de vieux qui prennent le temps, bang bang. J'appuie sur la gâchette, des textes aiguisés, non censurés et honnêtes. Une maîtrise parfaite du lexique moderne, pas d'excuses possibles, est-ce qu'il en vaut la peine? Tu crois peut-être me connaître, identifier mes propos. Sache que mon style est propre, je m'amuse de mes mots. Et on joue subtil, efficace depuis déjà des lustres. À donner sens à mes textes, tu resteras frustré. Ah, tu te prends qui en un idée viennent être vite tes acquis. Tu attends, tu es certes, et c'est bon. Première sur le rap depuis une décennie. Trois vives panthères qui en un éclair viennent nous prendre tes acquis. Tu attends, tu les serves à qui servent nos dires. Première sur le rap depuis une décennie. Visiblement tu suis de ce qui est risible en vie. On exalte la vie là où tu ne vois que du gris. Comme des insurgés qui se marient sur la face à rire. Ça rappe funky ici et déloge, tu ne vas pas tarir. Funky ici, c'est un concept, une idée. Nos trois MC affamés qui lâchent pas le micro. T'es déjà couché, faut pas pousser mes nez. Les sista sont hal, c'est le réveil en sursaut. On n'invente pas nos vies, c'est du rap de sista et de mama. Tu le vérifieras toi-même car les actes ne manquent pas. Un truc qui tient chaud au cul à l'heure où les focus ne manquent pas. On a les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Le cœur serré quand s'annonce la fin du voyage. On respire tant bien que mal, les parfums t'ont déversé. Et on a force de nos rimes, nos instruments et nos cahiers. Trois vives panthères qui en un éclair viennent mettre en doute tes acquis. Tu attends, tu observes à qui servent nos dires. Première sur le rap depuis une décennie. T'as cru qu'on était out, parti en Alaska. Changer numéro de cirque par peur de représailles. Mais la clique, loin des cynics, force encore le why. Évitant le rap game, le guerre tout contre et bien tes why. La preuve par trois, ici identifier. Des prises de risque, des rimes, de mesures sans filet. La folie passagère, la magie de l'instant. Voici précisément ce que notre équipe défend. Sur le passé, le présent, le futur. Un regard pressant qui oblige et mène la vie dure. Un miroir aux alouettes immises dans ton vide d'ordure. On fait fuir les corbeaux et renverse leur culture. Ton rap est une fiction à l'heure où la population se demande si la crise ne serait pas une libération. Toujours dans l'attendant, jamais dans la bonne direction. Sa terre mondiale se sera qualifiée en fonction. Trois rives de terre qui en éclair viennent mettre en doute les acquis. Tu as conduit les serres.
Dans ce morceau, vous abordez la place des filles dans le monde du rap. Hein. Mm-hmm. Le rap, c'est encore aujourd'hui un milieu très masculin. Mm-hmm. Comment on trouve sa place dans ce milieu-là ? Comment on est reçu, en fait ?
Je pense qu'en fait, sa place, plus jeune, on la réfléchissait pas tant que ça, en fait. C'était de l'ordre de l'instinctif. On avait envie, on y allait. Il n'y avait pas j'ai une fille, j'ai pas ma place. Et c'est en fait les retours qui nous montraient en fait qu'il n'y avait pas tant de filles que ça et que pour les garçons, c'était compliqué en fait d'aborder certaines thématiques dites de la colère en étant une nana, en fait. Donc, on s'est un peu retrouvé choqué en voyant en fait des réactions dans des soirées ou autres, des soirées freestyle toulousaines ou autres, en se disant mais en fait on a notre place, nous aussi on a des choses à dire et nous aussi on peut avoir une voix dite forte avec des textes en fait, avec des gros mots, pas bien. Et du coup voilà, on a eu envie de faire ça et on l'a fait. Et souvent c'est vrai que les garçons sont assez surpris, le public aussi, et on a souvent des retours ah mais vous rappez bien pour des filles, et c'est vraiment l'insulte suprême, c'est on rappe bien, point. Mais c'est, voilà, c'est l'effet de surprise qui amène des maladresses comme ça. Et puis souvent, en fait, peut-être qu'on est davantage écouté parce qu'on est des filles en fait dans ce milieu. Et le fait d'être pas nombreuses, il y a quand même un sentiment quand même du public qui a envie aussi de voir des filles sur scène. Et les filles ont envie de ça aussi. Et ça leur permet un peu de se projeter et de se dire mais moi aussi j'ai envie d'être sur scène, moi aussi j'ai envie de rapper. Donc ça, c'est important pour nous.
Peut-être que c'est des questions que tu serais posées si tu avais fait du rock au final ou n'importe quel autre style de musique.
Enfin, exactement. T'aurais été confrontée à ça. Voilà, c'est pareil.
Autour de vous, comment cela a été reçu par vos familles, vos amis? Comment c'est encore reçu, que, notamment toi, par rapport à ta profession enseignante, quand tu dis bah ouais, je fais aussi du rap?
C'est
quoi.
Ça. C'était drôle déjà au lycée, à la fac. C'était un peu compliqué parce que on n'avait pas l'image d'être des gros durs. On n'était pas en survêt, ni Lacoste ni autre. On n'était pas violente en fait dans notre appareil, mais ce qui pouvait nos textes pouvaient paraître violents alors que c'était pas ça, c'était juste des choses qu'on avait envie de dire. Donc il y avait quand même un peu une dichotomie comme ça qui était compliquée à gérer pour les gens. Ça a fait rire ma famille. C'était ça, parce que moi, cette image de douceur en fait, voilà, on prend un coup. Et je pense que voilà, ça a été beau, un concert, de voir voilà le regard de ma sœur en fait qui changeait sur moi. Et c'est drôle de ressentir ça en fait, une partie de soi que les autres soupçonnent pas ou qui est un peu étonnante quoi pour la famille. Donc voilà, dans l'enseignement, c'est encore plus étonnant parce que je pense que l'image des enseignants est encore plus lissée que l'image de la famille. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du prof mis sous cellophane, qui ne pense pas, qui est là, voilà, qui n'a pas de vie et qui ne sort pas du cadre, parce que pour eux, le hip-hop, c'est vraiment, ça symbolise une culture qui sort du cadre. Mais pourquoi ?
Est-ce que c'est pas aussi une sous-culture pour les profs, le hip-hop ?
Exactement, parce que quand, pour la plupart des profs, et je dis bien la plupart, hein, faire du rap ou faire écouter du rap à des élèves, c'est être dans une certaine démagogie, chose que j'ai du mal à comprendre. Donc déjà, le mot démagogie, en fait, en soi, c'est de dire qu'en fait, cette culture ne peut pas être la nôtre, nous enseignants, puisque voilà, on est issus d'une autre culture. Et moi, ce combat de culture, en fait, m'exaspère en voyant qu'il y a une bonne culture, une mauvaise culture, une culture, en fait, dite bonne, élitiste, et une autre, en fait, qui est pour la rue.
Je pense que des profs n'auraient pas fait écouter Brassens en 1960 à leurs élèves. Et...
Exactement, mais ça on oublie. Ça on l'oublie carrément en fait. Les profs ont l'impression que Brassens a toujours été accepté, mais ce n'est pas le cas.
Alors est-ce que dans le monde du rap, il existe aussi le plafond de verre? C'est-à-dire qu'on a du mal à monter, à se faire connaître, etc.
C'est un peu compliqué parce que... Surtout pour Anne et Jo qui ont travaillé davantage comme ça sur des scènes où il fallait montrer, pouvoir en fait être financé, c'est que les gens qui ont les sous, qui financent la musique, en fait, ont déjà des idées de produits préfabriqués. Donc il faut rentrer dans des cases pour être produit. Après, voilà, nous, l'objectif, c'était pas celui-là. Ça aurait pu se faire, mais on avait vraiment envie de rester dans l'underground et faire les choses qu'on avait envie de faire, les scènes qu'on voulait, rapper pour des assos, pour des choses qui nous tenaient à cœur et pas tant pouvoir à un moment donné en vivre. C'était pas l'objectif et on était d'accord en fait.
Alors là, en fond, on s'écoute un morceau que tu nous as suggéré, Madame Rêve.
Oui, Swift Gad.
Ouais.
Madame Rêve d'un monde loin de de ces gens sans cœur. Elle rêve de famille, de liberté, de faire des enfants seuls, qu'on la comprenne, de parler à bon entendeur. Rêve de grandeur comme monsieur lui, rêve d'être un grand penseur. Elle rêve d'un destin enchanteur, partir de sa barre à grise. Madame rêve d'une petite entreprise qui ne connaîtrait pas la crise. Madame analyse et rêve d'un ange gardien comme Joséphine. Madame rêve un peu trop, donc à la fin elle fait une grosse déprime. Son égo s'exprime entre des bouches et coquetteries, des vestiges de l'amour elle reconstruit avec de beaux débris. Madame rêve d'un mélodrame, d'une romance ou d'une comédie. Madame rêve de chaleur, elle rêve d'aimer jusqu'à l'hypothermie. Elle rêve d'apesanteur, de planer au-dessus des soucis. Madame rêve d'être dominatrice et d'autres fois qu'elle est soumise. Elle rêve d'artifice, de rester sage ou de faire des sottises. Madame rêve simplement de vivre, madame rêve d'érotisme.
Pourquoi t'aimes bien ce morceau ?
J'aime déjà l'original. Je trouve que l'original est fabuleuse et puis j'aime bien cet univers. Et Madame rêve parce que Madame rap et parce que Madame rêve de rapper.
Ouais. Alors ça nous fait une super transition avec une série que tu m'as fait découvrir il y a 2-3 ans. C'est une série qui a été produite et écrite par un très très grand groupe. Voilà, on est complètement dingue d'eux, c'est la rumeur évidemment. Oui. Cette série, ça s'appelle De l'encre. Mm-hmm. Et donc c'est juste 3 petits épisodes de 26 minutes hein. Et elle avait été diffusée sur Canal+, et ça montre un petit peu le parcours d'une jeune femme qui veut vraiment produire son album de rap hein. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle va être engagée comme nègre finalement pour écrire pour d'autres rappeurs. Et j'ai choisi un petit extrait de la série, c'est la fin. C'est horrible ce que je fais, mais c'est pas grave, vous regarderez quand même la série. C'est la fin où finalement elle se venge en sortant son album, et son album défonce en fait, démonte l'album qu'elle a écrit en nègre pour un rappeur. Et je pense aussi c'est une critique du rap commercial, bien pensant, bien propre, bien lisse, voilà.
Buzz-moi pas, bonsoir. Notre invité musique est aujourd'hui un slammer, poète, comédien, monsieur Diomède, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien.
Très bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, vous qui incarnez la génération émergente du slam. Vous êtes ici pour la sortie de votre nouvel album. Et pour en parler, Diomède, je vous propose de faire quelque chose d'assez inhabituel qu'on ne fait jamais en télévision. C'est-à-dire que je vais évoquer la sortie d'un autre album. Vous allez comprendre. Ici donc, l'album de Diomède, Dans mon ombre. Et là, un second album, De l'encre, signé Nejma et Romuald. Voici ces deux albums que j'ai reçus en même temps. C'est intriguant, non, Diomède ? C'est intriguant ?
Oui, hein ? Plutôt.
Bien sûr que c'est intriguant. Plutôt. Et parce que si on confronte ces deux disques, eh bien, et si on fait un petit peu attention, on voit quoi ? On voit d'emblée que les pochettes se ressemblent un petit peu, comme si l'une était le détournement de l'autre. Ensuite, les titres « Dans mon ombre », ici « De l'encre ». Eh bien, ça forme un tout. Dans mon ombre, de l'encre. Et si l'on va un peu plus loin et qu'on s'intéresse au titre, un instant, vous allez voir, excusez-moi, les spectateurs ne sont pas encore au courant. Le plus troublant, c'est que lorsque l'on s'intéresse au titre des deux albums à l'intérieur, on s'aperçoit que ce n'est pas juste une coïncidence. Regardez, je prends un titre au hasard. Le deuxième, l'album de Diomède, Derrière tes yeux. L'autre album, Mémo. Derrière tes yeux,
excusez-moi.
Mémo. Troisième titre, vous allez voir, Il rêve debout dans l'album de Diomède, et ici, Quand il gît sous mes rimes. Il rêve debout quand il gît sous mes rimes. Et c'est pareil pour tous les morceaux. Mais mon préféré, c'est le dernier. Diomède, bravo. Ici, le fils. Et là, je vous le donne en mille. De pute. Le fils de pute. C'est vraiment extraordinaire. Génial. Non pas un, mais deux albums qui se répondent l'un à l'autre. En quelque sorte,
plus
la face cachée.
Encore plus de déboires.
Son nom négatif.
Mais je
alors,
grâce
à vous,
Diomède. Encore plus de déboires.
Deux autres émissions sur le talent.
Qu'on les entend brailler. Nous, c'est la vie qu'on est venu s'octroyer. Sur fond de perquise dans un pauvre foyer. Leur sale clef peut aboyer. Le lion ne se retourne pas. Ici, c'est le zoo sans les cages. Tout autour de toi, pub dans ce pays, on sent un peu à l'étroit. Je crève le doigt, touche le ciel du bout du troisième doigt. À force de vivre dans un couara, 10 dans un débarras. Marre de rester en carafe devant du 24 carats. Et puis nique sa race, on leur pisse à l'arrêt. Provocatrice, agitatrice, à ce qui paraît. Toujours hors quota, boycotté. Persona non grata, exclu de tous les côtés. Passe-moi les menottes, ou passe-moi le brolic. Je suis l'ennemi public, on s'est sombré oblique. Pipi injecté de haine parce qu'il faut péter. Même si le colon doit se faire péter le zen. Encore plus fort pour encore plus de Delport. Ça fait encore plus fort pour encore.
On vient d'entendre un extrait de la série De l'encre, hein, passage qui met en évidence hein, l'intelligence de Nejma qui piège finalement ce faux slammer avec un album qui lui répond. Vous avez aussi entendu le morceau final, hein, celui du concert de Nejma, et on retrouve bel et bien la plume incisive, hein, la rage d'Aimé et Ekwe dans ce texte. Hein. Aimé et Ekwe, ce sont un peu les deux leaders de la rumeur, et on retrouve vraiment cette force des mots. Alors on va rester dans le domaine de la série avec un nouvel extrait et nous sommes sûrs que vous reconnaissez cette voix.
1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente.
C'est Anna Tijoux. Moi, je l'ai découvert en regardant la série Breaking Bad. Alors, je sais pas si ça, c'est la mise en scène qui m'a fait aimer le morceau, mais c'est, moi, je trouve que c'est super. Il y a beaucoup de rythme. Et Camille, tu m'as dit qu'elle avait aussi été mise dans la BO du jeu FIFA de foot. Alors là, on est vraiment dans le mainstream, mais j'aime bien. Elle est chilienne. Voilà, c'est déjà, on peut aborder aussi le fait que voilà, le rap, c'est vraiment un courant musical qui existe partout dans le monde.
Oui, et puis ça prouve hein, le fait que ces morceaux soient réutilisés dans des séries, dans des jeux vidéo. Ça prouve que oui, les rappeuses existent quoi, et elles ont une place. Mmh. Quoi.
Cosette de Boudoir, une madame rap.
Alors c'est vrai que le rap a une très mauvaise image, hein, la réputation d'être un milieu misogyne, faisant l'éloge de la violence, de la domination masculine, notamment dans ses clips, etc. Donc là aussi, hein, c'est beaucoup de clichés qui ont été véhiculés, parce que cette très mauvaise image des femmes, etc., on peut le retrouver dans n'importe quel milieu musical, hein, que ce soit dans le rock...
Voilà. N'importe quel médium artistique aussi, on retrouve la même image, et pas tant sur l'hip-hop. On parle beaucoup du hip-hop parce que c'est un art de rue au départ, c'est une culture qui est urbaine et qui ne vient pas en fait de là-haut, donc du coup c'est facilement critiquable.
Il y a un rappeur, hein, Flint, qui dans son morceau « Les clichés ont la vie dure » illustre exactement ça, hein, puisqu'il nous dit « Il résume le hip-hop à une façon de s'habiller, à une bande de jeunes insolents qui ne pensent qu'à briller, des as de la gâchette déterminés à appuyer, misogynes et violents dont le destin a vrillé. J'ai des couplets aiguisés parce que les clichés ont la peau dure, rappeurs et médias sont coupables de quelques belles impostures. » Pour faire face à ces clichés un petit peu qui ont la vie dure, certaines rappeuses, et notamment certaines rappeuses américaines, hein, dès les années 90, ont mis en place des sortes de stratégies, et c'est une stratégie que je trouve très intéressante. En fait, en 91, il y a un groupe de rap qui s'appelle Bitches With Problems, qui est un groupe de rap hardcore, hein,
violente,
américain.
Hein.
Ouais. Alors, elles ont sorti un unique album qui s'appelle The Bitches. Et donc elles ont réinvesti le terme « bitch », hein, déjà en proposant de l'écrire avec une majuscule et avec un Y aussi. Hein, et elles disent qu'il faut le vider de son sens, hein, pour pouvoir aussi y mettre autre chose.
Et se l'approprier, quoi. Et c'est à nous de mettre ce qu'on a envie de mettre dedans.
Voilà. Alors, je me suis un petit peu intéressée à leur album. Et il y a des choses qui sont vraiment passionnantes. Hein. Donc, les années 90, hein, c'est vraiment l'émergence de ce qu'on va appeler le gangsta rap, hein, avec à la fois la figure du gangster, du macro et des thèmes qui sont plus ou moins imposés, argent, drogue, armes, sexe, pouvoir et chienne, évidemment. Là-dedans, elles vont elles aussi parler sans détour de sexe, de drogue, d'argent, d'armes et des hommes qu'elles manipulent ou à qui elles rendent coup pour coup. Donc c'est vraiment cet album-là est un produit hautement conflictuel, hein, dirigé en priorité contre les hommes. Et donc elles vont constituer une sorte d'espace où un discours contre-hégémonique peut enfin émerger. Donc elles adoptent vraiment une féminité agressive, hein, et elles jouent, hein, et elles redéfinissent les rapports de domination. Donc j'ai choisi un petit peu quelques morceaux et que j'ai trouvé traduits, hein, évidemment parce que mon anglais est très pourri. Hein, donc je vais vous les proposer. Elles vont par exemple reprendre un petit peu ce que faisait Fanon aussi, hein, Frantz Fanon dans Peau Noire, Masque Blanc, où à un moment il a cette parole-là, hein, le beau nègre vous emmerde, oui, madame. Et elle propose, hein, un fils de pute a menacé de me flinguer, un autre négro a menacé de me gifler, putain c'est quoi ce bordel, je m'occupais juste de mes affaires. Je suis là pour te mettre en garde, toi et tous tes abrutis de potes, vous tous les frères qui squattez les quartiers et vendez du crack. Vous êtes rien d'autre que des lâches et des fils de pute. Donc yo, quand tu croiseras des chiennes, rappelle-toi simplement qu'on a des armes.
Bien wesh.
On dirait du Despentes.
Ouais, ouais, c'est tout à fait. Bah, c'est, on est dans les mêmes années hein, aussi. Hein. Donc, elles vont aussi aborder la question de la violence domestique, hein, notamment dans leur morceau Shit Popper. Eh bien, je suis Linda et je vais vous enseigner comment gérer un homme violent. Bitch, je vais te dire quoi faire, putain. Attends qu'il aille dormir. Dans la chambre, faufile-toi. 3 balles dans la tête. Laisse ce fils de pute pour mort. Ce fils de pute n'a pas de cœur. S'il en avait un, il t'aurait pas frappé dès le départ. Donc les filles, si vous en avez marre de vous faire battre, répétez après moi, nique sa mère.
Voilà, donc elles sont plus là pour faire des refrains. Elles sont créatrices et c'est elles qui dominent.
Ouais, alors il faut savoir qu'elles ont été soutenues hein, par Angela Davis, hein, quand même, cette grande figure féministe des Black Panthers. On les avait vraiment vues comme des femmes qui redonnaient des valeurs capacitantes aux autres femmes, quoi. Alors elles abordent aussi la question hein, de la violence policière, hein, notamment elles ont un petit morceau qui dit « Maintenant si tu veux me faire une fouille au corps et tout le reste, il me touche les fesses et presse mes seins, ce fils de pute est probablement en train d'avoir une érection ouais. ». Donc elles s'en prennent vraiment à tout ce qui dans leur vie quotidienne ouais. Les...
Et les violences sexuelles ont une grande part de leur album puisque de toute façon c'est vraiment une des premières aux États-Unis à en parler ouvertement. Et des violences sexuelles qui sont en fait faites par tous les membres en fait de la société, dont la police.
Alors pour clôturer cette présentation de Bitches with the Problem, vous avez entendu pendant tout notre petit speech leur morceau No Means No, qui est sur la question du consentement.
À toi de rapper, à toi de rapper.
Cosette de Boudoir, une madame rap.
Et ouais, parce que les meufs, elles rapent aussi. Alors il y a cette figure de la chienne hein, qu'on pourrait rattacher aussi à la figure de la louve qui est assez souvent utilisée dans des morceaux de rap par des femmes. Faire du rap, finalement, c'est aussi une forme de militantisme féministe, hein, ne pas laisser les dominants s'exprimer, quoi.
Oui, exactement. Et faire partie également en fait des dominants, parce que homme ou femme, on est dominant. On domine puisqu'on est acteur et qu'on agit sur la société. À partir de là, on est tous égaux. Et je pense que même le concept de louve peut être même plus fort que le concept du loup.
Alors, on va s'intéresser un petit peu à une femme qu'on a rencontrée dernièrement avec Hélène. Alors, elle s'appelle Marie Debray. Et elle a sorti en 2015, je crois, ou 2016, je ne sais plus les dates, mais je crois que c'était 2015, un livre qui a un petit peu, pas fait scandale, mais défrayé les chroniques, etc., puisque l'intitulé de ce livre est « Ma chatte, lettre à Booba ».
J'adore le titre.
Tu nous expliques qui est Booba en deux mots, Gélien ?
Booba, c'est un excellent rappeur que j'aime. Donc, on n'est pas d'accord en fait dans le funky par rapport à Booba, puisque certaines, dont je ne citerai pas du groupe, apprécient de l'écouter, puisque a envie un peu, apprécie en fait le travail instrumental qu'il fait derrière. Mais c'est vrai qu'il est très bien entouré, qu'il est entouré par quand même d'excellents beatmakers. Donc, au niveau musical dans l'hip-hop, c'est important. Après, on adhère ou on adhère pas. Moi, pour ma part, je n'adhère pas, donc je donne ma voix à ce type de rap que je n'aime pas en fait, qui me donne envie d'être violente du coup en contrepartie. C'est peut-être pas mal. Et
Elle explique qu'en fait elle connaissait pas du tout Booba, que c'est un ami qui lui suggère d'écouter, et là elle rentre dans une phase monomaniaque hein, et donc très vite elle se rend compte qu'il parle mal de certaines femmes et donc elle se dit il lui faut un adversaire pour lui répondre et c'est ce qu'elle va faire dans son livre hein. Donc elle aussi elle va se mettre à écrire de manière très crue hein, et elle va utiliser aussi un rythme hein, dans son écriture un peu comme si elle écrivait un morceau de rap hein, avec des phrases très frappantes et très bien construites. Par exemple,
sur le ring, je veux que les miaulements de sorcières fassent cligner vos paupières.
Elle aussi, elle a choisi le terme chatte puisque c'est un terrain complètement inconnu dans le patriarcat. Hein. C'est dans l'histoire, elle le dit hein, dans une de ses interviews, notamment celle de Madame Rap. Dans l'histoire de l'Occident, les mecs nous baisent, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas ma chatte en tant que mon sexe, mais la chatte de celles qui se connaissent et qui savent que les femmes ont été coupées de la connaissance de leur propre sexe. Donc elle a vraiment eu dans sa démarche, hein, une démarche féministe, quoi.
Je cite hein, ce que dit Marie Debré, parce que toi, t'as plus échangé avec elle que moi, Camille. Elle dit ce que Booba dit, en fait, il est taxé de machisme, même c'est parce qu'il est noir, en fait. Parce que ce que dit Booba, c'est ce que l'homme blanc dit de manière insidieuse, puisque de toute façon, ça fait des millénaires que ça se passe comme ça. Et elle dit, en tant que femme, donc elle cite Booba, tu suces dans la Lamborghini, hein, sans t'en rendre compte, pour gravir les échelons de ta boîte ou autre, tout ce qui est acquis, Booba le dit. Il a besoin de le dire parce qu'il vient pas du monde blanc et de l'élite. Il reflète ce qui se passe dans le monde blanc. Et je me suis dit qu'il était juste en train de donner un mode d'emploi du patriarcat. C'est ce qu'elle dit, en fait, Marie Debré. Mmh. Et je crois qu'elle a raison sur cette analyse-là.
Oui, moi, de toute façon, cette analyse, je la trouve brillante. Vraiment, elle nous donne les clés de ce qui se passe. Booba est un rappeur qu'on aime ou n'aime pas. Il vend beaucoup de disques. Il est très écouté et très influent dans le monde du rap en France. Ce qu'il dit n'a rien, en fait, de choquant en soi. Mais le fait qu'il soit noir, en fait, rajoute dans l'imaginaire, en fait, collectif, le fait que homme noir, il est obligatoirement violent. Et on voit très bien au niveau des invitations dans les émissions dites mainstream, type Le Grand Journal ou même Touche pas à mon poste, où quand Booba est invité, les chroniqueurs, en fait, ils sont à cran, ils ont déjà une image préconçue et il est facilement, en fait, violenté. Alors qu'un rappeur, en fait, qui va dire les mêmes choses, mais qui va s'adresser à un public différent, les rappeurs tels Aurel San, Nekfeu et autres rappeurs blancs sont très bien accueillis dans ces émissions. Et bizarrement, en fait, on ne va ne parler qu'en fait de leur flow, de la qualité de leur texte, et jamais de la violence, en fait, des textes vis-à-vis des femmes. Donc ça, c'est quand même problématique.
Même dans la musique en général, enfin ça, c'est des vieux morceaux, genre Eddie Constantine, il chantait cigarette, whisky et petite pépé. Enfin, tu vois, dans la variété, on trouve aussi des textes qui sont quand même hyper macho, et là, on parle de plumes, quoi.
Voilà.
On vous propose de vous faire trois petites lectures d'extraits de Machat, lettre à Booba. Alors avant, il faut peut-être que je vous raconte ce qui s'est passé quand j'ai essayé d'obtenir ce livre. J'ai passé la commande il y a une dizaine de jours à ma petite librairie dans mon petit village du Lot. Voilà, vous imaginez un libraire d'une cinquantaine d'années. Donc je lui dis, voilà, je voudrais un ouvrage. L'auteur s'appelle Marie Debré.
Très bien.
Ah, il me dit, Debré, comme Régis ? Oui, monsieur, comme Régis. Après, j'ai dit, ça s'appelle Lettre à Booba. Il me dit, Booba, vous l'écrivez comment ? Donc, je lui appelle, il me dit, ah, c'est sûr, c'est pas de la littérature jeunesse, là. Donc, c'était assez drôle. Donc, merci, Marie, d'avoir donné un tel titre à ton livre, parce que ça permet des situations surréalistes dans les librairies de petites campagnes. Alors, on a choisi trois petits extraits. Premier extrait, c'est un petit peu l'introduction qui t'a beaucoup plu, toi, Hélène. Et puis ensuite, ces deux extraits. Le premier, ça vient du chapitre qui s'appelle « Calibre » et le second de l'autre chapitre qui s'appelle « Cartouchière ».
Donc, le début de « Lettre à Booba ». Vous êtes noir et blanc, je suis blanche. Vous êtes des bas-fonds, je suis du prolétariat et de la bourgeoisie. Vous êtes un homme, je suis une femme. Vous êtes un empereur romain, je suis une barbare. Vous êtes un cynique, je suis une romantique. Vous êtes capitaliste, je suis mystique. Vous êtes blindé, je le suis moins. Vous êtes monté, je suis descendu. Vous êtes parti de chez nous, j'habite parmi les vôtres. Vous avez quitté Boulogne-Billancourt pour Miami, j'ai quitté la rive gauche de Paris pour Barbès-Rochechouart. Vous êtes la victoire, je suis l'errance. Vous êtes le monde, je suis l'intime. Vous êtes le cri, je suis le silence. Vous êtes la voix, je suis l'être noir sur blanc. Vous êtes la gloire, je suis là. Vous dites les payer, je refuse de me faire acheter. Vous avez la couleur de la victime, j'en ai le sexe.
Bravo. Moi, je suis très très touchée en fait par ce texte parce que on s'approprie rapidement en fait les deux univers et surtout la fin quoi. Elle est à Rochechouart et je trouve ça percutant de sens.
Alors, deuxième extrait de Calibre. Lécher la plume jusqu'à saigner, remonter dans leurs histoires jusqu'à voir le vrai, au-delà des apparences de leurs discours de dominance. Plonger ma plume d'apache dans l'écorchure de vos mots. Je ne sais rien faire de mes mains à part sécher mes larmes. Je prends mes mains pour les poser sur le clavier et écrire une lettre comme en des temps anciens de correspondance auxquelles j'aime penser au milieu de vos invectives que je malaxe avec rage, comme en des cours d'une noblesse autre, aux parfums chavirants, aux soirées si douces qu'elles accompagneraient votre acharnement, gonfleraient mes lèvres, enfleraient mon clitoris. Encore, encore et encore. punk affamé, harnaché aux broderies, des rangers sur mes bas et porte-jartelles, des perles dans les cheveux, des tatouages dans le cou, des rouges sur mes lèvres. C'est moi qui choisis où je dépose des traces sur vos corps d'hommes. Criez, criez, monsieur le gangster, ce que je murmure, car je veux devenir ce que j'aurais dû être. Je ne porte aucun masque et j'avance vers vous. Les couloirs ne sont plus des labyrinthes. L'odeur de sueur envahit la salle. Grésillement des néons, une fenêtre ouverte, le râle haletant des hommes qui bandent en découvrant l'échancrure de celles qui tiennent la bride de leur allaitement, vers vous, pas à pas, à coups de punchline, voir, savoir, vous, vous dites, par-delà le bien et le mal.
C'est magnifique.
Alors, troisième extrait hein, de Cartouchière.
Bienvenue, très cher clitoris. Il manquait à votre vocabulaire. J'ai désiré qu'il vienne à votre bouche. Certes, vous ne le touchez pas, mais vous le voyez. Elle a un piercing au clito. Silencieux pendant ces siècles patriarcaux, inutiles pour la reproduction, méprisés par les autorités religieuses, les psychanalystes, la science, il traversa les siècles, dissimulé. Il dort chez les prostituées. Il est la liberté. Je ne peux pas vous le louer. Le non-avoué, vous ne pouvez pas me le prendre. C'est moi qui l'offre. Il est l'autre porte. Il gambade à côté de vos lambeaux, de celles qui crient quand vous les prenez en levrette, vous laissant croire à leur jouissance pour que vous concédiez quelques billets et flatteries. Mais vous savez, monsieur, tu veux tester B2O pour te faire de la pub? Il ne sert qu'au plaisir. Je ne perds rien quand je me masturbe, contrairement à vous. Ma descendance est morte dans un rouleau de sopalin. Mon clitoris n'est pas rentable à l'élite. Il est là, notre détonateur, ignoré, mutilé, victorieux. Le savoir est une arme, je suis calibrée.
Merci pour cette lecture.
Avec plaisir.
C'est vrai qu'on retrouve dans son écriture une écriture qui se rapproche énormément d'un morceau de rap, en fait, d'une écriture de rap. Elle-même, dans son livre, j'adore la citation qu'elle a choisie du début. Je l'avais oubliée, cette citation de Burroughs, qui dit « L'écriture comme une arme avec des revolvers braqués, voici le temps de l'assassin ».
Exactement. Là, son écriture, elle est vraiment calibrée. C'est pour ça que le savoir est une arme, je suis calibrée. Moi, ça me touche profondément puisque l'enjeu, il est là, en fait. Et notre rôle, il est là, c'est qu'on soit le plus calibré possible.
Du coup, on enchaîne direct hein, sur comment on écrit un morceau de rap, en fait. Quels sont vos procédés d'écriture? Vous êtes trois, donc c'est une écriture collective. Comment ça se passe?
Alors, au départ, c'était une écriture collective parce qu'on se voyait, géographiquement parlant. On était à Toulouse, toutes les trois. Le fait d'être éloignées, une dans l'Hôte, une à Quélus et l'autre à Paris, c'est un peu plus compliqué. Donc, on effectue plutôt des choix de thèmes. Et ensuite, on écrit et on se connaît tellement bien. En fait, que les choses, bizarrement, en fait, s'imbriquent parfaitement. Donc, c'est pour ça, quand il y aura, Inch'Allah, le deuxième album, je pense qu'on va travailler différemment, avec davantage, en fait, d'écritures combinées et davantage des morceaux, en fait, qui seront construits différemment, avec davantage de refrains et tout ça. Donc, le premier album est assez, vous verrez, assez saccadé, avec trois univers, mais qui n'en font qu'un, d'où le titre de l'album, comme on a dit tout à l'heure. Mais le deuxième album, voilà, ça sera un autre travail avec davantage une écriture en fait commune.
Après au niveau du rap lui-même, toi t'as une voix hyper posée, hyper grave, tout smooth en fait on pourrait dire.
Ouais.
Jo elle est plus tendue quoi non?
Oui, après ça dépend de ce que les gens entendent en fait. Souvent, on va dire peut-être que Jo et Anne sont plus tendues que moi. Ce qui ressort, c'est souvent que je parais plus violente au mic comme on le dit souvent. Mais avec le temps, c'est marrant, ça s'est beaucoup équilibré, donc je sais pas à quoi c'est dû, mais vous verrez dans l'album, voilà, ça s'équilibre en fait au fil du temps. Et il y a des morceaux où les trois timbres de voix vont ensemble, et c'est vrai que voilà, j'ai une voix plus grave, et peut-être que voilà, Joanne peuvent paraître, tout dépend en fait du ressenti des auditeurs.
On t'a jamais dit genre fais du gospel ou quoi, peut-être une voix de chanteuse de gospel hein.
Souvent, j'aimerais bien en faire, s'il y a des propositions.
Cosette de Boudoir,
spécial Madame Rap.
Il faut savoir qu'un morceau de rap, hein, ça s'écrit presque comme un poème. Hein,
oui.
C'est-à-dire que
il
y a des allitérations, il y a des assonances, il y a des images, des métaphores filées, etc.
Exactement.
Hein, c'est pour ça que étudier du rap en français, c'est tout à fait.
C'est pour ça qu'on parle de culture. Et si vous voyez les coulisses en fait d'une écriture de rap, une écriture de texte, c'est vrai que ça, j'aimerais bien le filmer et le montrer. Où vous avez en fait des crews, des groupes de rap qui bossent ensemble et des mecs en fait que qui ont comme meilleur ami en fait un dictionnaire des synonymes, un dictionnaire d'images poétiques, et qui bossent en fait. Et donc les gros lourds que vous voyez en fait, c'est des gros bosseurs en fait qui bossent l'image et qui manient la langue, parce que tout est réfléchi dans un texte.
Alors moi, je propose qu'on s'écoute le début d'un morceau de rap qu'on aime énormément toutes les deux. Donc c'est le morceau de Kazé, la grande reine.
Kazé.
Voilà. Et donc le morceau s'appelle Apprends à taire, ouais. Et elle donne une belle leçon à ces rappeurs qui savent pas trop écrire.
Exactement.
Non, c'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton pleurat est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible. Le braqueur introuvable, le voleur invisible. Le rappeur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais bosser souvent est une chose honorable.
Vas-y, casse-toi de là,
faites-leur foutre. Commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'te plaît.
Discipline.
Quoi? Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Oui, j'avoue.
Kazé est quelqu'un de très politique, hein, et passe vraiment des choses très politiques dans ses morceaux, hein, notamment sur le néocolonialisme, sur le passé esclavagiste de la France, etc. Donc vous aussi, hein, vous avez un rap engagé, un rap qui dénonce, hein, alors une multitude de thèmes, car peut-être qu'en étant femme, issue de l'immigration aussi, on subit à peu près toutes les violences.
Je pense qu'on cumule. Ouais. Ou peut-être, moi, je vois plus les choses comme ce sont de jolies portes, en fait, de cumuler, parce qu'on appartient à différents mondes. Et je pense qu'il faut le voir en tant que richesse. Moi, je suis, mais ravie, quoi. Et je suis ravie d'être une femme. Je suis ravie d'être issue de l'immigration. Je suis ravie de tout ce que je peux avoir, puisque je vois vraiment, ce sont des sésames et des portes, et on peut appartenir à tellement de choses que c'est intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la colère. Mais cette colère, c'est génial de l'avoir, quoi.
Alors, tu nous as parlé aussi d'une autre rappeuse que t'aimes beaucoup, hein, c'est Princesse Agnès.
Princesse Agnès, voilà, Princesse Agnès qui a accompagné nos soirées d'ado. Je pense qu'on a à peu près le même âge avec Princesse Agnès, et on l'a rencontrée avec donc les filles du Funky.
Transcrit tout ce que je crée, parce qu'il y a trop de faim, trop de cris dans le cœur ancré, parce que j'ai du cran pour réussir même sans passer à l'écran. Mon rap accroche moins sous écrou que sous écrin, parce que j'emprunte les règles avec un vécu loin des normes. Je m'agrippe à mes rêves, parce qu'ici la chance ça n'a rien d'énorme.
C'est une nana super qui rappe admirablement bien, qui a un joli message en fait. Elle fait partie en fait de ces nanas fin des années 90, les années 2000, qui a été là et qui a montré en fait à des nanas, à des femmes qu'elles pouvaient monter sur scène et qu'elles pouvaient rapper tout en étant habillées en jean, petit sweat, en étant habillées tranquille en fait. Et je trouve qu'elle a contribué à une autre image de la nana qui rappe.
Alors on va s'écouter un de vos morceaux, moi, que j'apprécie beaucoup, et qui est peut-être un des morceaux les plus politiques que vous ayez, hein. Ça s'appelle Catégorisme.
Un de nos préférés aussi.
Alors juste avant l'écoute, hein, comment ce morceau-là vous est venu? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire?
En fait, c'est de multiples expériences en parlant toutes les trois. C'est que quoi qu'on fasse, et on est arrivé au même constat, on est mise dans des catégories et davantage que les mecs. Et on voulait savoir pourquoi. Pourquoi ce besoin, en fait, de mettre des étiquettes aux nanas, alors qu'en fait, on peut appartenir à tout. On peut être habillé en mini-jupe. Soit on m'avait fait une fois où j'avais rappé, j'étais en mini-jupe et des bottes. Et en fait, les gens me disent, mais tu peux pas rapper comme ça. Et je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche, voilà, est-ce que l'habit donc fait la rappeuse? Je pense pas. Donc on s'est amusé aussi, en fait, on s'est beaucoup amusé à dire, ben vas-y quoi, mets-moi dans tes cases. Moi je peux m'amuser, mais j'ai peut-être aussi l'intelligence de t'en sortir et de la changer en fait, la case. Donc c'est pour ça que voilà, ce morceau, ça a été voilà mi-colère, mi-amusement, parce qu'on avait envie de jouer un peu sur toutes les étiquettes, et puis nous aussi on les met, mais on peut l'enlever, quoi.
Allez, on s'écoute ça.
Je
font mal. Des lustres qu'on attend, parier sur le bon cheval. Arriver le dernier, sans battre les couilles. Pousser les limites et avoir les yeux mouillés. Jamais lâcher l'affaire, jamais lâche au contraire. Se lécher les babines devant les seins de ta mère. Être fourbe et fier, fort devant l'adversaire. Faciliter la tâche, rester droit et sévère. Attendre si besoin est que le temps s'arrête. Refaire l'histoire et n'en faire qu'à sa tête. Tu t'entêtes, t'as l'air bête, t'es têtu. T'attends quoi pour enfin constater l'étendue des dégâts. Pas de prise de conscience, c'est le cercle vicieux. Conspire pendant que je pense avant de baisser les yeux. Ça consiste en un sens, espérer finir vieux. Fini les formules d'élégance, on vient jeter l'huile sur le feu. Les sourires mesquins, bien sûr grillés d'avance. D'ailleurs on t'a pas dit, mais c'est à toi qu'on pense. Ça compresse sévère au niveau de la ceinture. C'est vrai qu'être un homme, c'est avoir la bite dure. Catégorise-moi, enferme-moi dans des cases. Cible-moi, sors de moi, mais choisis bien ton langage. De shit au test à prison, ferme un pas, une cage. L'étudiant précaire vandalise un écrémage. Quand tu nous définis sur tes critères, n'oublie pas la rage du malléable et déçu. Là c'est du Moyen-Âge. Ta prophétie s'accomplit sous la volonté des sages. Tenant les contrées pour servir leur lignage. Catégorise-moi, invente-moi un nom, mets-moi des barrages. Évite-moi de me situer dans le paysage. Consommatrice compulsive, forcée au mariage. Régionaliste contestant comme les gens du voyage. Je suis une pute à frange, emmène-moi dans ta grange. C'est moi la pétasse qu'attend ta dédicace. Et qui je suis plus vulgaire que les meufs sur papier glace. Formule-moi en bocal, la tentative est d'occasion. Catégorise-moi, paye-moi en bon d'achat. Joue à la loterie, exprime-toi en sondage. Fiche ma pensée, fais taire la folie, crée l'image. Immisce-toi dans mes rêves, invente-moi un mirage. Tu crises à l'écran, tu crimes par essence. Victime de naissance, tu frises la défense. Vise la tête, ça l'arrêtera net. Descends la starlette de sa petite comète, yo.
Catégorise-moi sur des pages. Vierge en superfuge, mécontente quand tu en abuses l'âge. De choisir son petit carré de rubis sous complètement barré. Allez, catégorise-moi pour définir le flou. Le trou qui donne envie d'utiliser tous tes gourous. Pas de you-you pour annoncer le divin sacre. Le baptême d'entrer dans une loge au goût acre. Balafre au cœur quand tous tes atomes s'agitent. Allez, attrape-moi pour contrôler tout ce qui t'irrite. Vite, empoisonne-moi dans des cas bien agencé, outrancé par des raccourcis outranciers. Tu as besoin de me mettre un code-barre pour identifier le produit que t'achètes, faux anard. Narrer tes promesses d'anticonsommation. Ration d'une pensée obtue et sans dérision. Catégorise-moi de ouf, de prude, de malade, de bobo, de maussade, de brute, de meuf en rade. Balade-moi dans les méandres du labyrinthe. Des dalles infinies de tout ton taf qui t'éreinte. Balade-moi dans les méandres du labyrinthe. Des dalles infinies de tout ton taf qui t'éreinte. Catégorise-moi.
Alors moi je crois que ma phrase préférée du morceau c'est on est des putes à franges, emmène-moi dans ta grange.
J'adore.
Ouais, c'est, je pense que ça pourrait définir Cosette de Boudoir aussi.
Exactement.
On va peut-être vous l'emprunter comme slogan.
Vous pouvez.
Moi ce que j'aime beaucoup ouais, dans ce morceau, bon, le texte est juste génial, l'instru est pas mal aussi, vous travaillez avec une DJette, hein, c'était
ça ? Oui voilà, donc gros big up à notre DJette qui a été longtemps, mais qui s'appelle Mescla et qui fait partie en fait du collectif Hertzienne à Toulouse, donc j'invite les auditeurs à se documenter, à s'intéresser à ce mouvement de DJ, de nana DJ qui est juste formidable, c'est de la frappe. Voilà.
Et en fait, peut-être que les auditeurs n'auront pas forcément reconnu, toi, on t'entend plus vers la fin du morceau, la voix toute grave, en fait.
Oui, voilà, c'est ça.
Dans cette émission, du coup, on a pu découvrir un petit peu l'univers des funky, découvrir quelques morceaux. Vraiment, voilà, on aura compris qu'on l'adore. On a évoqué le rap français. Mais comme on l'a dit dans cette émission, le rap, c'est un courant musical qui a lieu partout dans le monde.
Ouais, là, une culture internationale.
On est dans le dur, on parle de la musique et tout ça, mais on va parler peut-être dans une autre émission plus politique. Donc Jalila, tu es réinvitée pour une spéciale rap.
Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, on va faire une spéciale rap dans le monde et vraiment axée sur l'aspect politique et bien sûr féministe. Donc je te remercie vraiment d'être venue. Puis Camille aussi, bien sûr, je te remercie comme toujours pour tout ton formidable travail pour Cosette.
Merci Cosette Boudoir.
Allez, on se retrouve le mois prochain et on continue cette fabuleuse discussion avec les Funky Sista Crew et Jalul.
Vous pouvez retrouver et podcaster cette émission sur notre site decibelfm.fr et bien sûr sur l'audioblog d'Arte Radio à la page Cosette Boudoir, et puis visitez bien sûr notre formidable Facebook.